vous allez enchaîner sur l'émission L'œil carnivore, mais avant, il y a un petit message de notre ami Stan, venu des étoiles.
This is Stan Lee coming at you. Want you to know, Marvel has always been and always will be a reflection of the world right outside our window. That world may change and evolve, but the one thing that will never change is the way we tell our stories of heroism. Those stories have room for everyone, regardless of their race, gender, religion, or color of their skin. The only things we don't have room for are hatred, intolerance, and bigotry. That man next to you, he's your brother. That woman over there, she's your sister. And that kid walking by, hey, who knows? He may have the proportionate strength of a spider. We're all part of one big family, the human family, and we all come together in the body of Marvel. And you, you're part of that family. You're part of the Marvel universe that moves ever upward and onward to greater glory. In other words, Excelsior!
Et voilà, Ergus, un petit mot sur ce qu'a dit Stan Lee.
Pas vraiment sur ce qu'il a dit, mais ça me semblait être un beau passage de toutes ces nombreuses citations, et je pense que c'était important de lui rendre un petit hommage ici, parce que je pense que tous, on a été d'une manière ou d'une autre influencés par la carrière de ce monsieur, que ce soit au travers de ses créations, que simplement son humour, les caméos qu'il a fait, les TV shows, enfin les reality shows qu'il a fait, enfin toutes ces choses-là, je pense qu'il a été important pour beaucoup de monde, et voilà, je pense que c'était
sympa. En tout cas, ses créations. Voilà. Allez, on commence l'émission, les gars ?
C'est parti !
C'est parti !
C'est parti !
Allez, générique.
Quand on s'est battu, tu avais l'œil du tigre, mec, tu en voulais ! Il faut que tu retrouves ce regard. Et la seule façon d'y arriver, c'est de tout recommencer depuis le début.
Bienvenue à bord du podcast L'œil carnivore. Vous y trouverez de l'info.
Lex Luthor, le Bouffonveur, Magneto, enfin tous les connards, c'est eux qui ont fait ça.
Des critiques constructives.
Parce que ça, c'est honteux, c'est ta mère.
De l'amour.
Enfin, je vais tout de même pas me faire enculer sous prétexte que c'est un ami.
De l'innommable.
C'est pas un endroit pour les enfants.
Accrochez vos oreilles. L'équipage vous souhaite une bonne écoute.
Et bonsoir à tous. On est le... Quelle date déjà ? Je ne sais plus. Le 17 novembre 2018.
Déjà.
Il commence à faire bon dans le studio, là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. C'est chouette. Il y a un invité.
Fabrice,
merci. Toujours un problème au niveau des noms. Qui est avec nous de Geek Attitude Game, je vais y arriver.
Effectivement, les noms.
Qu'on a reçu à l'épisode 52 déjà.
Oui, chouette.
C'est mon deuxième passage.
Et qui revient pour nous parler de Dicium, voilà. Un chouette jeu et que Sam a pu tester hier soir, donc il vous fera son retour. Et puis sinon, nous sommes autour de la table avec Ergus.
Coucou tout le monde.
Avec le retour des news pas fraîches, et puis un petit récit de voyage.
Bah oui, je vais vous parler de mes vacances. Hein.
Voilà. Hein. Bon, c'est des vacances un peu particulières.
Hein, oui, c'est
qui
ça.
Qui font peur. Voilà. On n'en dit pas plus tout de suite. Et puis, évidemment, vous l'avez déjà entendu, il y a Sam.
Hello.
Et Sam, tu nous reviens avec effectivement ton invité. Et puis aussi sur un autre jeu qui s'appelle The Color Monster.
Ouais, exactement. Ouais.
Pour les enfants. Ça sera notre séquence Papa Geek.
Voilà.
Ça a l'air très chouette en tout cas. Voilà, fantastique. Puis tu nous parleras avec ton invité de Essen aussi, hein, parce qu'il y a eu pas mal de choses là-bas. Oh, oui. Donc Essen, le salon du jeu, pour ceux qui ne savent pas. Et puis nous avons aussi Luc.
Oui.
Luc qui est parmi nous, qui est aux commandes, qui surveille le Facebook.
On ne me voit pas parce que j'ai cadré comme une merde et on voit juste mon micro, mais je suis là.
Voilà, qui s'occupe du Facebook. Et si vous voulez nous voir en direct, vous pouvez aller sur L'œil carnivore, vous cherchez L'œil Carnivore sur Facebook et vous nous voyez en direct. Et nous allons rester avec vous une petite heure sur les antennes de Radio Panique, sur le 105.4. Et puis nous continuerons l'émission, comme à notre habitude, sur le live Facebook et nous rendrons l'antenne pour la suite des émissions de Radio Panique. Voilà, et eh bien nous allons commencer avec les news pas fraîches. Alors, je viens de me rendre compte que j'ai pas pris le jingle des news pas fraîches.
C'est un scandale, je m'en vais.
Il va falloir le faire à la bouche.
Il va falloir,
je vais faire un peu le buzz.
Est-ce qu'il est frais, mon poisson, hein? Est-ce qu'il
est frais? Tu veux, il est frais, tu le veux.
Tu le veux, mon poisson, ah. Voilà.
C'était... Oh, dis donc. Pourquoi on s'emmerde avec des sons et des machins?
Donc voilà, je n'ai pas pris, artisanat. Mais on va commencer avec un
premier son.
Un premier son. Évidemment, tout le monde a la conduite sous les yeux, donc c'est facile.
Ouais, tout le monde triche ici. Hein.
Tout le monde triche. Il faudrait qu'on trouve un système pour... T'as pas vu ? Alors c'est quoi, ça ? Mais parle devant un micro, sinon les autres ne t'entendent pas. Notamment, t'as pas vu, mais...
Ça, c'est un bon vieux son rétro. Oh là là. Non, je ne regarde pas.
Bon, je t'aide un petit peu, c'est ouais. Une série. Bon, allez, on y va. Pour ceux qui ont reconnu,
c'est corporel. Hein,
c'est Iron Fist.
Le Fist.
Oui, la série.
On pouvait
Netflix.
Être sale et faire autre chose aussi que j'ai détesté.
Alors, tu seras peut-être l'une des raisons pour laquelle on va parler de cette voilà. News pas fraîche.
Voilà.
Je ne sais pas qui en a entendu parler, mais donc la saison 2 d'Iron Fist, qui avait pourtant fait des meilleurs scores que la saison 1, eh bien, à peine terminée, un mois après, on a annoncé qu'il n'y aurait pas de saison 3. Donc Netflix et Marvel, dans un communiqué joint, ont vraiment dit la même chose, le même blabla habituel, merci aux équipes, c'était formidable, merci aux fans, etc., etc. Et donc la série ne sera pas renouvelée. Dans la foulée, Luke Cage... nous a fait le même coup.
Ouais.
C'est-à-dire qu'une semaine après l'annonce de l'annulation de Iron Fist, Luke Cage nous fait le même coup, donc il n'y aura pas de saison 3 de Luke Cage.
Et vous savez pourquoi ?
Alors, il y a...
Attends, ménage, le suspense.
Vas-y. Alors, il y a évidemment plein de théories, plein de machins.
Il n'y en a qu'une qui tient la route.
Alors, on va parler des théories officielles, qui sont que du côté Iron Fist, c'est le problème des audiences, que c'est une série qui coûte très cher et que par rapport à ce qu'elle a rapporté, c'était pas suffisant pour la maintenir en vie. Du côté Luke Cage, ce serait pour des divergences artistiques. Mmh. Voilà, cette espèce de mot valise dans lequel on met un petit peu tout pour dire j'ai pas eu assez d'argent ou je suis pas content et je me casse. La véritable raison, on s'en doute, il y a Disney qui est là derrière, qui va lancer sa plateforme de streaming incessamment sous peu. D'ailleurs, il y a déjà un site qui est là, vous pouvez aller vous inscrire pour recevoir les news directement, donc ça s'appelle Disney+.
Ils sont occupés d'ailleurs à rapatrier leur série.
Donc ce qu'on suppose, ça serait effectivement cette stratégie de récupération de séries.
Rick et Morty aussi, hein, dans son Netflix, est occupé à disparaître gentiment. Je crois que c'est déjà fait même.
Non, il est toujours là.
Mais il va disparaître aussi. Donc on est dans
il faut
cette
que je regarde là, pour la 360e fois Rick et Morty.
Et donc voilà, effectivement, Disney qui va sortir des séries sur Loki, séries sur Black Widow. Donc ils vont sortir ces trucs-là, ces séries Marvel. Donc ils ont besoin de récupérer d'autres choses. Et en plus, du côté Iron Fist, l'acteur de Iron Fist qui s'appelle Finn Jones a laissé entendre que son personnage n'était pas fini, que son interprétation de ce personnage pourrait revivre ailleurs. Alors est-ce que ça veut dire qu'il va revivre dans d'autres séries, Jessica Jones et Punisher, qui sont déjà, elles, confirmées pour revenir? Du Daredevil, on ne sait pas. Daredevil vient de finir, mais il n'y a encore aucune annonce.
Il a le vent en poupe. Hein, donc...
Il a le vent en poupe, ouais. Mais est-ce qu'il va rester chez Netflix? Pour l'instant, il n'y a rien
De la part de Disney, ça serait un peu absurde. Ils ont intérêt à tout rapatrier. Après, il y a les accords commerciaux qui font que c'est compliqué. En gros, moi, de ce que je sais, parce que je bosse un peu dans le domaine, en gros, Disney demandait tellement en fait, pour pouvoir continuer avec ces licences-là, qui arrivaient à terme et qu'il fallait renouveler, que, en gros, Netflix a dit non, mais c'est bon, on arrête, quoi. Donc, et effectivement, ils demandaient tellement parce qu'ils ont envie de les rapatrier chez eux, quoi. Voilà, il n'y a pas 36 milliards de solutions. Il va y avoir une grosse bataille qui va arriver d'ici peu de temps entre notamment Netflix et Disney. Alors, c'est marrant parce que tu as dit que le site s'appelait Disney.
Disney Plus.
Disney Plus.
Donc, Disney avec un chiffre plus.
C'est étonnant qu'ils utilisent le mot Disney dedans. D'habitude, sur leurs abonnements et autres, ils sont plus sur ABC, alors que nous, on ne connaît pas, mais qui est une marque qui est plus large, qui est une chaîne, en fait, aux États-Unis, mais qui est une marque plus large. Parce qu'il faut savoir que Disney, ce n'est pas juste les films Disney, ce n'est pas juste Marvel, ce n'est pas juste La Guerre des Étoiles, mais c'est aussi Esprit Criminel, Grey's Anatomy.
Discovery Channel.
Il y a énormément de choses. Ça veut dire qu'il y a des grosses séries de masse, parce que Grey's Anatomy, c'est vraiment une série de masse. On parle, voilà, ça fait des grosses audiences.
Ils ont la Fox. Hein,
et ils viennent de racheter Fox. Donc ça va être un énorme mastodonte qui va nous arriver dessus. Netflix aura sans doute les possibilités de résister avec une offre séparée. Par contre, les acteurs locaux, je pense que ça va commencer à devenir très très compliqué, quoi.
Je crois que même du Amazon Prime, il ne faut pas aller spécialement local, mais même du Amazon Prime face à du Netflix et Disney,
ouh là là.
Ils vont batailler quand même.
Ils sont clairement pas positionnés sur un...
Ouais,
ils sont pas agressifs du tout sur leur plateforme vidéo Amazon.
En fait, je pense que Amazon Prime est plutôt un bonus, bah on en reparlera après, mais un bonus pour ceux qui sont Prime.
Oui, ouais, clairement.
T'as un peu de production, mais je pense que là, s'ils veulent se mettre au même niveau, il va falloir mettre les bouchées doubles là.
D'ailleurs, parce que... j'en profite pour teaser le prochain épisode de... Bah, pas de Marvel ou quoi que ce soit, mais de Les Carnivores. Parce qu'on va recevoir quelqu'un qui est relativement bien calé au niveau Marvel, MCU et tout ça, qui viendra sans doute parler aussi de ce qui se passe pour l'instant au niveau justement de Disney qui attaque sur les plateformes de diffusion.
Tu peux donner le nom, hein.
Bah c'est Fazekill.
Oui, Fazekill qui a fait partie de Joystick à une certaine époque.
Tout
etc.
à fait. Et qui vient de sortir un bouquin sur le Marvel Cinematic Universe, donc le MCU, et qui viendra sans doute nous éclairer.
Voilà, on compte sur Comics Prime pour le challenger un peu.
Oui, parce que voilà. Nous, là, on va l'air un peu con quand même si on doit essayer de lui. Et là, je vais nous parler d'un truc et on va sans doute le regarder avec des yeux ronds.
Voilà.
Donc voilà.
Voilà.
Petit teasing.
Teasing,
non,
ouais.
Batman, c'est DC Comics, c'est pas.
Quoi ? Quoi ?
Bon, voilà. Eh bien, suite au prochain épisode, hein, de toute façon, là, ça va vite se décanter, cette histoire entre Netflix et Disney. Allez, la suite.
Aziraphale. It's me. We need to talk.
I assume this is about...
Armageddon. Yes. How long have we been friends? 6,000 years.
Friends? We're not friends. We are an angel. And a demon. We're on opposite sides.
We're on our side. It's up to me.
Yes.
We have nothing whatsoever in common. I don't even like you.
You do.
You do.
Qui autour de la table connaît Good Omens ou De Bons Présages?
J'ai lu le bouquin qui est une pure tuerie.
Ouais, un super bouquin. Alors en français, c'est De Bons Présages. C'est un bouquin de Terry Pratchett et Neil Gaiman.
Ah,
oui. Deux grands messieurs,
deux
quand
grands
même.
Messieurs. Feu Terry Pratchett, malheureusement.
Feu Terry Pratchett. D'ailleurs, il y a une super interview de Neil Gaiman qui parle de Terry Pratchett. Je vous conseille vraiment, vraiment d'aller la voir. Notamment, il raconte comment est arrivée l'idée de faire justement De Bons Présages et c'est vraiment un super bouquin. Alors je prends mes notes parce que je les ai pas prises.
Mais comme beaucoup de livres de Gaiman ou même de Pratchett, c'est des livres qui crient à être adaptés à l'écran parce que c'est quand on les lit, les images viennent tout de suite, quoi. Ça coule tout seul.
Oui, avec quand même un minimum de moyens, c'est ça le souci.
Et jusqu'à présent, il y a déjà eu des adaptations de Pratchett en film.
Ils n'ont pas donné grand-chose.
Non, malheureusement, c'était pas extraordinaire. Et J'avoue que j'étais un peu dubitatif quand même quand j'ai vu le trailer ici de Good Omens.
Alors, on va repartir sur la base.
Ouais,
Good Omens, c'est quoi ? En gros, le pitch de départ, c'est que l'apocalypse va arriver. Pas de bol,
oui,
hein, quand même. Et il y a un ange et un démon qui vivent sur Terre. Donc il y a Crowley qui est le démon qui est joué par David Tennant. Alors David Tennant, vous savez qui c'est C'est notamment un des docteurs de Doctor Who. C'est un super acteur que j'aime beaucoup. On l'a vu dans d'autres séries, etc. C'est vraiment un traître. Jessica Jones, effectivement, il jouait le méchant Broadchurch, etc. C'est un très très chouette acteur. Moi, j'aime beaucoup. Raphaël, on va dire ça comme ça.
Raphaël,
voilà. Qui est joué par Michael Sheen. Alors, Michael Sheen, en fait, c'est plus un acteur de théâtre anglais, donc peu connu finalement de la plèbe, on va dire ça comme ça. Et donc, c'est un ange et un démon, et ils vivent sur Terre parmi les hommes depuis extrêmement longtemps. Là, dans l'extrait qu'on a entendu, en gros, ça fait 6000 ans, parce que bon, la Terre est censée avoir 6000 ans. 6000 ans qui se côtoient. Et puis ils se disent, on est bien quand même là, quand même. Hein, c'est chouette. Hein, bon, d'accord, t'es un démon, d'accord, t'es un ange, etc. Mais voilà, on a nos petites habitudes et tout. Ça serait con que ça se termine quand même. Et donc, en gros, ils mettent un plan en place pour éviter l'apocalypse.
Pour tout faire foirer. Ouais, c'est génial.
Voilà. Et c'est vraiment, vraiment bien. Alors, ça va être une mini-série en 6 épisodes. C'est adapté par Neil Gaiman. Donc c'est Neil Gaiman qui est showrunner de la série. Donc en gros, voilà.
C'est un peu le même esprit que pour American Gods. Alors,
voilà, mais American Gods, je pense pas qu'il était le showrunner. Non. Parle bien dans ton micro, histoire que les gens t'entendent. Voilà. Et c'est un souhait que Terry Pratchett a fait avant de mourir, que Neil Gaiman adapte, que ça soit Neil Gaiman qui adapte en fait de Bon Présage. Donc voilà, ça correspond aussi à une demande de Terry Pratchett, quoi. Voilà, que ça soit.
Mais
ça
soit quand même, n'a pas de pression du tout. Bah, un gars dans son testament, il te dit voilà, bon, faudra que tu diriges une adaptation cinématographique.
Oh,
télé,
plan de pas.
Oui.
Voilà, c'est ça.
En plus, il faut savoir que bon,
je
même
te rentrerai
si
jusqu'à la fin du jour, si
tu seras maudit sur cette génération.
Même si pour nous, Terry Pratchett, Neil Gaiman, c'est deux grands messieurs, pour Neil Gaiman, Terry Pratchett, c'est un dieu. Ça veut dire qu'il se sent petit par rapport à lui, quoi. Il faut bien se rendre compte. Et d'ailleurs, nous, francophones, on ne se rend pas compte de l'importance de Terry Pratchett, mais Terry Pratchett, c'est un auteur immense en Angleterre. C'est celui qui a vendu le plus de bouquins derrière... J.K. Rowling, l'auteur de
Harry
Potter, qui a vendu, elle, à travers le monde. Donc, il faut se rendre compte de ce que c'est que Terry Pratchett. Si vous n'avez jamais lu Terry Pratchett, allez-y, n'importe lequel, vous le prenez.
Ouais,
voilà.
Notamment le Disque Monde.
Tout le Disque Monde.
Comme si tu mets un pied dans le Disque Monde, là, t'as pas fini non plus.
Non, j'ai d'ailleurs toujours pas fini.
Oh, il y en a un paquet.
Je vous conseille d'ailleurs, j'en avais parlé dans un des œils carnivores, mais il a écrit toute une série de bouquins sur notamment la création du monde, du monde réel, donc pas du Disque Monde, qui sont fantastiques à lire. Tiens. Parce que évidemment teintés de l'humour, etc. Donc je vous conseille c'est vraiment, si vous tombez dessus, je sais plus les titres, mais cherchez, vous trouverez. Alors ça sort en 2018, en tout cas c'est marqué comme ça sur Amazon Prime, parce que ça va sortir sur Amazon Prime, mais on n'en sait pas plus, donc voilà, et vu qu'on est quand même vers la fin de l'année, ça risque d'arriver d'ici peu de temps, voilà. Comme acteur, il y a aussi John Hamm, qui jouera l'archange Gabriel. John Hamm, c'est notamment l'acteur principal de Mad Men, et qui a joué aussi dans plein d'autres choses, voilà. Et voilà. Et puis le réalisateur, par contre, je le connais très peu. C'est Douglas MacKinnon qui a fait notamment des Doctor Who. C'est un réalisateur anglais de télévision anglaise. Voilà. Mais indépendamment de ça, bon, tu disais, Luc,
oui,
le teaser, le trailer.
Le trailer, ouais.
Je ne sais pas ce que ça donnera.
Disons que quand j'ai vu les images. J'étais confiant. Je me suis dit, ouais, avec ces deux acteurs-là, ça peut passer. Tennant, il est juste fantastique.
Oh, ouais.
Mais il a un registre de jeu assez limité. En tout cas, c'est les rôles qu'on lui donne maintenant. Je me trompe peut-être, mais c'est les rôles qu'on lui donne. Il va toujours jouer les gars un peu tordus.
Là, il joue un démon, ça tombe bien.
Oui, mais c'est un peu, j'ai l'impression qu'il reste toujours un peu sur ses habitudes.
Je vois ce que tu veux dire, c'est que là, on l'a pris pour jouer du David Tennant, puissance, du Doctor Who, puissance.
Donc j'ai l'impression qu'il en fait un peu beaucoup, mais bon, sur un trailer, comment juger, on verra.
Surtout qu'on prend un trailer, généralement, les plus grands machins. Voilà, en tout cas, lisez le roman. Il est pas très gros.
Il
se lit tout seul. Donc allez-y, vous pouvez y aller. Voilà. Allez, on passe à la suite.
La suite.
Allez.
Moi, j'ai permis de prendre la version vintage, hein, qui nous parle beaucoup plus, bien entendu.
J'entends ce son, je vois une pluie de dollars qui
dans les yeux d'une souris.
Bon, absolument.
Ça, c'est un peu la news, on s'en fout, mais je la trouvais vraiment amusante. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu parler de quelque chose d'un peu rocambolesque chez Disney récemment. Toi, tu en as entendu parler ?
Non.
Alors... Disney.
Je regarde la conduite, mais ça ne m'aide pas.
Non, bien sûr, c'est fait exprès.
Oui, bien vu.
Je développe des stratégies pour vous. Donc, en fait, les parcs de Disney, Californie, donc Los Angeles et Orlando en Floride, ont un gros problème. À peu près une fois par mois, il y a des gens qui viennent disperser des cendres funéraires dans leur parc d'attractions.
Ah merde.
Ce qui est totalement interdit, bien entendu, pour des questions légales et puis simplement des questions médicales. Enfin, je veux dire, on ne peut pas respirer des gens.
Tu sors un peu du cadre Disney, là.
Voilà. Et donc, du coup, ils ont dû faire un communiqué officiel pour dire aux gens d'arrêter de venir faire ça. Parce qu'il y avait, par exemple, le pire endroit, il semblerait-il, c'est la maison hantée, où il y a énormément de cendres humaines qui sont dispersées parce que
c'est un
petit... Voilà,
moi, j'imaginerais près du château.
Non, parce que là, c'est un petit wagon où il y a personne qui surveille, quasiment, qui va assez lentement, qui a des arrêts devant les trois visages. Qui est dans le noir, donc il y a moyen. Maintenant, c'est tout à fait illégal. Et ce manoir hanté a dû être fermé pendant plusieurs jours pour que la police vienne avec des services médico-légaux pour nettoyer les particules fines humaines.
Identifier
les corps, voilà.
Cendres par cendres.
Moi, j'avais même entendu qu'en fait, il y a un code, parce que dans les gros centres de parcs d'attractions de ce style-là, il y a des codes pour chaque truc. Il y a un code pour le vomi, il y a un code pour quelqu'un dessous, il y a un code, etc. Pour que, évidemment, les gens puissent se parler comme à la police, un code machin, etc. Et il y a un code pour des cendres qui sont dispersées, en fait.
Encore des cendres dans le manoir hanté, nom de Dieu.
Donc, t'imagines, quoi. C'est complètement fou. Apparemment, il n'y a pas encore de chiffres, mais il semblerait que ça se fasse aussi en France. Mais
je conçois qu'il y ait des fans ultimes qui disent oui, j'aimerais bien avoir mes cendres dispersées dans un parc Disney. Je conçois le truc parce que ça arrive pour plein d'autres endroits aussi, quoi. Mais
est-ce que vous le feriez pour un proche qui vous le demanderait ?
Mais ça me
braver la loi.
Ah, braver la loi, oui, mais pas pour un parc Disney.
Alors, on me dit qu'on nous voit pas sur le Facebook, si.
Comment ça, on nous voit pas ?
Ouais, je sais pas. Si.
Allume ton écran.
Allume ton écran, bon, voilà. C'est pas grave, apparemment, mais tout tourne bien. Bon, voilà. C'est bon. Voilà, peut-être le message n'était pas... Voilà. Être daté, voilà.
Voilà, enfin bref, la news on s'en fout, mais je trouvais ça vachement marrant en fait.
Bah oui, voilà, ok. Donc si jamais je meurs, ne m'envoyez pas à Disneyland Paris, c'est pas du tout, ça m'intéresse pas. Voilà.
Je voudrais avoir mes cendres dispersées sur le siège du MR, s'il vous plaît. Toi, des trucs comme ça parfois, tu dis, bon ben, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des gens qui j'ai déjà entendu souvent parler de gens qui avaient demandé d'avoir leur sang dispersé, par exemple, dans des parcs nationaux ou dans des endroits vraiment... avec une certaine aura, quoi, des choses comme ça. Mais, donc, je conçois qu'il y ait des gens pour qui ça ait la même valeur, en tout cas pour eux, d'être dans un truc Disney. Alors que ce soit un parc ou que ce soit autre chose, si c'est Disney avant tout, je crois, pour eux, c'est ça qui leur parle. Mais effectivement, qui prévoit une pelouse, je ne sais pas, sur le côté, quelque chose, une pelouse en forme de Mickey.
Techniquement, tu peux le promettre, il n'est pas le faire. On s'en fout.
Après, c'est toi, c'est ta conscience.
Hein. Ah, c'est
Dieu le sait. Après, c'est un créneau à prendre hein, pour Disney. Une petite parcelle spécialement pour déverser les cendres à seulement 150 euros la semaine.
Oui, ça marcherait. Avec minimum 2 nuitées à l'hôtel. Voilà,
c'est ça.
Ouais. 2-3 conditions.
Non, mais c'est capable. Hein,
une urne vidée, ah, une entrée gratuite pour enfants. Je sais pas, il y a des concepts.
Il faut ramener l'urne alors. Voilà.
Ils vont ouvrir des cimetières.
Avec une urne niquée, de nouveau.
Une urne niquée.
C'est fantastique.
L'horreur. Écoute, je suis sûr que dans certains pays, ça marcherait.
Passons à autre chose. Là, il est temps. Allez, la suite.
Je vous parie que je vous la mets.
Incroyable.
Non ! Surtout, ne lance pas cette canette.
Mais pourquoi ?
Parce que si tu la lances, voilà ce qui va se passer. Tu vas rater la poubelle de quelques centimètres et la canette va tomber au sol. Ensuite, ton ami va annoncer qu'il a une grosse envie d'aller aux toilettes, ce qui va vous pousser à rentrer chez vous sans que vous ne ramassiez la canette restée au sol.
T'as envie de pisser, toi ? C'est qu'une canette.
Seulement voilà ! La présence de cette canette va entraîner d'autres gens à vouloir lancer leur canette dans la poubelle et ils vont tous rater. Chez ! Et plus le tas de canettes va grandir, moins les gens feront attention à mettre leur détritus dans la poubelle. Ce qui aura pour conséquence de créer le plus grand tas de détritus du monde. Un tas qui ira de Porte de Montreuil jusqu'à Porte de Bercy.
Oui, mais...
Mais ce n'est pas tout ! Plus tard, ce tas d'ordures va se mettre à produire du méthane. Un méthane qui va se concentrer massivement. Et le 12 avril 2075, un passant qui se trouve être le descendant de ton pote et de ton autre pote qui aura changé de sexe entre-temps, allumera une cigarette qui va enflammer le méthane, ce qui provoquera une explosion qui va ravager tout Paris !
Ah merde!
Donc tu vois, jeune homme, chaque action que tu fais peut avoir des conséquences désastreuses pour le futur. Il faut que j'y aille! Ne jette pas cette canette! Je vais disparaître, c'est normal! Surtout, ne la jette pas!
Et voilà, le Visiteur du Futur. Vous avez regardé le Visiteur du Futur? Non, on me fait un des grands noms. Oui, me dit Luc. voilà. Vous avez jamais regardé Visiteur du Futur? Franchement, regardez-le, c'est vraiment chouette. Le Visiteur du Futur, donc c'est une web série faite par François Descraques, mais il y a plein de gens derrière lui.
Encore François Descraques.
Et il a fait 4 saisons. Et franchement, c'est très chouette à regarder. Je vous conseille vraiment, vous passerez de bons moments à regarder cette web série. Et il y a énormément de fans. Il faut savoir quand même que ça a cumulé dans les 4 saisons 45 millions de vues. Donc c'est pas mal. Ils ont sorti des bandes dessinées, un roman, un jeu de plateau aussi, Visiteur du Futur. Donc voilà, ça va. Et ils vont faire un film. Ça y est, vraiment, mais alors un vrai film, entre guillemets, parce qu'il y avait d'autres séries comme Noobs qui avaient fait un crowdfunding pour réussir à faire un film. Finalement, ils avaient fait 3 saisons, etc. On était encore dans le même type de production que la web-série, de manière générale, avec plus de moyens, parce qu'ils avaient réussi à prendre beaucoup d'argent. Mais là, c'est une boîte de prod avec d'autres, une coproduction, etc., pour sortir au cinéma. Donc, un vrai film accessible, pas seulement à ceux qui ont vu la série, mais à tout le monde. Évidemment, ceux qui ont vu la série verront toutes les références, etc. Mais c'est absolument pas obligatoire, d'après François Descraques, d'avoir vu d'avoir vu la web série, d'avoir lu les romans, d'avoir vu les BD, etc. Parce que l'intrigue, de toute façon, se passe après la série. Donc après le roman qui s'appelle La Meute et après la trilogie de manga qu'ils ont sorti qui s'appelle La Brigade Temporelle. Et donc à ce moment-là, ça se passera. Alors les acteurs, le cast de la série va revenir. Notamment tout le Raph, le Visiteur, Henri, la Brigade Temporelle, etc. Ils sont vraiment bons. Il y a Slimane notamment, que moi j'aime beaucoup, ou Raphaël Descraques. Je trouve que c'est des gens qui sont révélés à travers les web-séries et à travers ce genre de choses, et qui, tu vois la créativité, tu vois le talent. Je sais pas ce que t'en penses, Luc.
J'avais bien aimé, j'ai pas regardé jusqu'au bout, mais c'est simplement parce que j'ai zappé. Mais c'est pas que j'ai pas aimé, mais j'imaginais bien qu'à un moment ils allaient faire quelque chose avec. Évidemment, après ils sont venus avec tous les produits qui dérivaient du truc, et là je trouvais qu'ils en avaient fait peut-être un peu beaucoup. Mais
le roman, moi je l'avais lu, il était très chouette, franchement. La Meute, ça se lit bien.
Je pense qu'en film ça peut être intéressant d'arriver à condenser Voilà, parce que c'est quand même pas, mm-hmm. c'est quand même pas rien. À condenser, je sais pas, ils vont devoir quand même sérieusement couper dedans.
Non, mais c'est une suite, hein, c'est une autre histoire.
Bah oui, ils vont quand même devoir introduire le personnage, ils vont devoir recommencer l'histoire.
Mais pas forcément, parce que je pense que c'est avec, d'après ce que j'ai compris, c'est, ça va suivre un autre personnage, donc un autre héros, sachant que les.
C'est un spin-off.
C'est une sorte de spin-off, mais bon, voilà, j'en sais pas beaucoup plus d'après ce que j'ai lu dans les différentes interviews. On est sur un autre personnage, donc on est vraiment sur une autre histoire avec évidemment l'ancien cast qui viendra, etc.
J'imagine.
Voilà. En tout cas, la maison de production s'appelle Pyramide Production. On ne sait pas quand ils tournent encore, ils ne savent pas donc quand le film va sortir, mais l'argent est là pour tourner, donc c'est le principal. Sauf là, ils essayent de faire en sorte avec. Que ça se tourne dans les meilleures conditions possibles.
Hmm Sauf si quelqu'un se barre avec entre deux.
Oui, mais bon, voilà, c'est le film, l'économie du film fonctionne un peu différemment, donc tu peux, il n'y a pas vraiment une cagnotte avec laquelle tu peux te barrer. Voilà. En tout cas, moi, j'attends ça avec impatience. Voilà. Allez, la suite. Attention, c'est encore de l'anglais.
Yo, yo, I'm telling y'all, this is crazy. Wait, just wait. It's official, baby. It's official. Bad Boys 3. It's happening. It's official.
Y'all
I'm telling you.
It.
Yo, just that's it. No more. Y'all can't handle no more of that.
Alors la traduction
Yo les gars, yo c'est trop bien les gars, mec, putain c'est génial, c'est officiel. Alors
toute la retenue de Will Smith.
Voilà, donc vous avez reconnu hein, Will Smith et son ami j'ai un trou de mémoire évidemment, Martin Lawrence. Voilà, qui annonce officiellement Bad Boys 3 qui sera intitulé Bad Boys for Life. Alors c'est un film qui a eu plein de déboires pour être produit, ça fait quand même 15 ans qu'on attend qu'il fasse cette suite.
15 ans.
Ça fait 15 ans
mais
qu'on
ils sont pas un peu vieux maintenant pour faire ça.
Si, mais c'est, ça va être tout le principe du film en fait hein. Donc le scénario c'est qu'ils sont séparés. Ils travaillent plus ensemble. Martin Lawrence, son personnage est détective privé. Will Smith, il est célibataire, et oui, lui qui était toujours le dragueur de ces dames, et il est alors d'après le pitch dans la crise de la quarantaine. Will Smith est en 50 ans, on va plutôt dire qu'il est dans la crise de la cinquantaine, hein, pour sa colle. Voilà, et alors, c'est toujours Jerry Bruckheimer qui produit, hein, monsieur qui produit à peu près tout, tout au monde. Et c'est réalisé par des Belges. Je ne sais pas si vous en aviez entendu
Frère
parler.
Ardenne.
Non.
Caméra épaule.
Châtelineau. Alors là, j'irai le voir, je pense.
C'est réalisé par. Alors désolé si j'écorche leur nom, mais Bilal Fallah et Adil El Arbi qui ont réalisé Black. Donc c'est deux envers soi.
Ah ben, dis donc.
Et Will Smith et Martin Lawrence avaient vu leur film, ils avaient trouvé ça vraiment génial. Et c'est eux qui ont poussé en fait pour qu'on les choisisse comme réalisateurs. Alors dans une interview, ils disaient ouais, quand on était jeunes, on déconnait, on disait on va faire des films et on fera le prochain Bad Boys. Et ben voilà, ils y sont.
Chouette pour eux.
Ben, dis donc. Ouais,
donc la Belgique va de nouveau être mise en avant grâce à un grand chef-d'œuvre du cinéma.
Oui, on verra bien.
Voilà, alors est-ce qu'ils ont les épaules pour faire ce film? J'en sais rien.
Il y en a plus d'un qui s'est brûlé les ailes sur le modèle hollywoodien, c'est pas évident.
Voilà.
Mais à la limite, en tant qu'Européen, ça peut apporter quelque chose d'intéressant et ça me titillera en tout cas pour peut-être pas le voir au ciné parce que bon voilà, mais en tout cas pour le regarder quand il passera quoi.
Il faut voir s'ils y mettent leurs pattes ou s'ils essayent de faire un copier de ce qui a déjà été fait by Bad Boys parce que je pense que s'ils prennent trop leur distance, les fans du début de saga vont risquer de
tomber. Il y a beaucoup de fans de début de saga.
Ouais quand même. Hein.
Ouais.
Bad Boys c'est un truc qui était vachement attendu. Hein.
Bad Boys oui, hein. Ça a quand même une bonne fanbase derrière. Hein.
Ouais, bah oui, tant qu'à faire. Mais bon, s'ils sont allés les chercher, c'est qu'ils avaient envie de raconter quelque chose.
C'est tout simplement ce que les studios vont laisser faire.
Bah après, évidemment, donc j'irai à Jerry Bruckheimer qui est derrière la production, mais évidemment, Will Smith est évidemment un des producteurs exécutifs, etc. Donc je pense que, vu le poids autant financier que de l'aura de Will Smith, je pense que si lui, il va leur dire écoutez les gars, ça il faut changer. À mon avis, les deux petits Belges, ils vont changer.
Ils vont plier, ouais, je pense aussi.
Enfin voilà, le tournage est en cours. Il devrait terminer en mars 2019 et la sortie serait pour février 2020.
Bon, ben on verra, on en reparlera à ce moment-là, si le carnivore existe encore. Allez, et ben on va continuer, parce qu'on a parlé de Stan Lee, hein. qui nous a quittés. Il y a quelqu'un d'autre qui nous a quittés. Je pense qu'autour de la table, il n'y a pas grand monde qui connaît, mais pour moi, c'était important, donc j'avais envie au moins de saluer sa mémoire. Est-ce que quelqu'un reconnaît
Michael Jackson?
Ouais, Billie Jean. Et cette version, c'est quoi? Alors, en fait, ce qu'on entend là, c'est effectivement The Residence. Donc, je ne sais pas si vous connaissez The Residence.
Via toi.
Via moi. qui est un groupe, moi, que j'aime beaucoup, que j'ai découvert étant jeune et qui m'a suivi toute ma vie. Et on a appris, alors je cherche mes notes, on a appris que ce 29 octobre, je crois que c'est le 29 octobre, Hardy Fox, qui était un des membres importants du collectif des Residents, nous a quittés, voilà. Et donc, pour moi, c'est quelque chose. Alors, The Residents, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un collectif d'artistes américains, originaire de San Francisco, Californie, évidemment. Vous avez peut-être déjà vu leur tronche, etc., peut-être à travers le web ou des choses dans ce genre-là, parce que leur costume emblématique a été longtemps en fait un homme en smoking avec un haut de forme, et à la place du visage, c'est un gros globe oculaire. Donc peut-être que vous avez vu ce genre de choses passer, c'est pas impossible.
Oui, ça résonne.
Ça résonne. Mais évidemment, ils étaient masqués, comme peut l'être Stupéflip à l'heure actuelle, ou comme peut l'être d'autres groupes, Gorillaz ou autres, qui arrivent.
Slipknot.
Voilà. Et qui, mais eux, ils ont commencé ça en 69. Et donc, on ne sait pas qui est réellement derrière les Residents, on ne sait pas. Quels sont les membres, etc. Et ça évolue, et c'est vraiment, donc c'est un collectif. Mais Hardy Fox, a priori, était quand même un des membres les plus importants, notamment au niveau de la composition en fait des morceaux, etc. Donc voilà, il s'était mis en retrait depuis 2015, mais il continuait à composer. Et voilà, donc il nous a quitté en 2018. Alors ils ont commencé en 69. Ils comptent à leur actif plus de 80 albums quand même. Le groupe a également produit des courts-métrages, a pu savoir qu'en faire. Ils ont fait 5 pièces, 5 importantes pièces de théâtre musicaux. 3 fictions interactives sur CD-ROM, à l'époque où les CD-ROM étaient. Oui. Et c'était vraiment des pionniers à faire ce genre de choses, donc ils sont vraiment appropriés le média. Ils ont fait plein de DVD, 10 DVD de concerts, de films, d'art vidéo, etc. Parce qu'ils ont énormément travaillé et la musique et l'image. Et ils ont fait notamment aussi des bandes sonores pour le cinéma, la télévision, etc. Donc vraiment, ils ont été énormément productifs. Ils font à l'heure actuelle une tournée pour les 50 ans du groupe. Et ils passent au Botanique en février. Évidemment, j'y serai. Je ne peux pas ne pas y être. En tout cas, si vous ne connaissez pas, allez voir leur travail sur le net. Et il y a vraiment tout un univers qui s'ouvre à vous. Je me souviens encore, c'était au Cinéma Nova, un cinéma alternatif à Bruxelles, pour ceux qui ne connaissent pas, où ils avaient diffusé leur One Minute Story, qui sont plein de petits courts-métrages complètement barges et plein de clips qu'ils avaient fait à l'époque. C'est voilà, faut aller voir, vous allez découvrir un monde qui vous attirera ou pas, voilà, peu importe, mais c'est des gens qui ont travaillé la musique et l'image depuis 50 ans, et d'ailleurs on en voit le ressac de leur vague chez divers artistes à droite à gauche. Après on se dit, ah oui, mais tiens, ça vient de là, etc. quoi, voilà. Allez, j'ai plus la conduite sous les yeux, mais je crois que il est temps de passer. On va faire un petit interlude musical, hein, histoire de se faire une pause.
Interlude dans la joie.
Et puis, nous passerons à notre invité, hein, à Fabrice de Geek Attitude Games, pour la sortie de Dissium, qui est leur nouveau jeu emblématique. Alors, ce petit interlude musical, nous allons passer Black Box Revelation, Le morceau il s'appelle Tattoo Smiles. Et alors, pour la petite histoire, Black Box Revelation, leur musique a été prise pour Son of Anarchy. Alors oui, alors, c'est un groupe belge, c'est deux Belges. D'ailleurs, ça s'entend peu, en fait. Bah, on ne se rend pas compte qu'ils sont que deux. Hein, la batterie, hein, la guitare. C'est un groupe belge, de même bruxellois.
Oui, tout à fait.
Ils sont flamands, flamands-bruxellois.
C'est pas grave.
C'est pas grave.
Personne n'est parfait. Et donc, il y a un de leurs morceaux qui a été pris dans la BO de Son of Anarchy. Hein, ce qui est pas rien pour un groupe belge. Et
ils sont étonnants ces Belges quand même.
Voilà. Et ça permet de faire un petit teasing sur la suite de nos émissions, parce que normalement on devrait recevoir, alors avec un peu de chance, le leader de.
Oui, donc sauf s'il y a une troisième guerre mondiale, normalement effectivement on devrait recevoir Giacomo, qui est le chanteur de Romano Nervoso,
voilà.
Qui est un groupe de La Louvière.
Et un groupe de La Louvière, et qui lui a vu son
dernier titre. Utilisé dans la BO de Mayans, donc la suite de Sons of Anarchy.
Voilà, comme quoi les Belges sont présents aux USA là, en force. Allez, on s'écoute ça et on se retrouve juste après.